Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Ne plus entendre l'insoutenable cri de l'océan, c'est ce qui anime Paul Watson et les membres de son association Sea Shepherd, qui affiche déjà 40 ans de lutte acharnée. Une vie consacrée à la préservation de l'océan, un homme adulé ou détesté, rebaptisé le pirate des mers ou qualifié d'éco-terroriste par ses détracteurs, il est aujourd'hui sous le coup d'un mandat d'arrêt lancé par le Costa Rica et le Japon. En France, comme ailleurs dans le monde, des chercheurs, des scientifiques, des célébrités comme des citoyens, des militants tout simplement se sont engagés auprès de lui et de son organisation combative. À l'occasion de la Journée internationale de la baleine, journée de défense et de protection de l'ensemble des mammifères marins, nous avons choisi de plonger au cœur de l'aventure Sea Shepherd et de l'engagement de son initiateur, le capitaine Paul Watson, pour questionner l'état de l'océan, indispensable au futur de l'homme. Nous sommes en compagnie de Lamia Essemlali. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice de Sea Shepherd France et co-directrice de Sea Shepherd Global, auteure du livre Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie, un livre paru aux éditions Glénat, et avec nous dans le studio Gilles Boeuf. Bonsoir.
Bonsoir.
Océanographe, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et ancien conseiller environnement auprès de Ségolène Royal. Et à 23h40, en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde dans les Échos de la Terre, nous recevrons Alain Bougrain-Dubourg, journaliste, membre du Conseil économique, social et environnemental. Il est président de la Ligue pour la protection des oiseaux et auteur du livre « Les lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes », un livre paru aux éditions « Les échappées de cause à effet », le magazine de l'environnement sur France Culture est préparé comme d'habitude par Chouchane Djergaillan, Anaï Morales, avec la complicité d'Anne Gouzon, de Caroline Chausset, de Vanessa Chang, réalisé par Alexandra Malka, avec à la technique aujourd'hui Clément Daté.
Melbourne, Australie. Demain, les Sea Shepherds embarqueront pour un voyage qui les conduira dans les mers les plus dangereuses du monde. Leur but ? Empêcher un navire japonais de chasser des baleines dans l'Antarctique. Le chef du groupe s'appelle Paul Watson. C'est l'un des cofondateurs de l'organisation activiste Greenpeace.
On ne demande pas à des criminels de s'arrêter. On intervient physiquement pour mettre un terme à leurs agissements.
Mais ces tactiques agressives ne sont pas du goût de tous. Il a été exclu de la direction de Greenpeace par 11 voix contre une, cette dernière voix étant la sienne. Il a ensuite créé sa propre organisation, Sea Shepherd, et il obéit à ses propres règles. Cet homme est prêt à mourir pour les baleines et il attend le même dévouement de la part de son équipage.
On vous informe que votre activité baleinière a été officiellement interdite par la Cour fédérale d'Australie.
Où qu'elle aille, Sea Shepherd suscite à chaque fois la controverse. Certains les qualifient de terroristes, d'autres de héros. Eux se considèrent comme des pirates des temps modernes. Ici, dans l'Antarctique, les Japonais prétendent mener des recherches scientifiques. Mais les Sea Shepherds les accusent de violer l'interdiction mondiale de la chasse commerciale à la baleine. Les deux camps disent agir dans la légalité.
Il y a des traités et des règlements, mais personne pour les faire appliquer. On me reproche de risquer des vies humaines pour des baleines. Mais je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. C'est le gouvernement qui devrait s'en occuper, pas nous. Comme il ne fait rien, on s'en charge.
Alors, un homme engagé jusqu'à la mort, Paul Watson, qui suscite des sentiments controversés, entiers en tout cas, on peut le dire. On l'aime ou on le déteste. Lamia Essemlali, est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être déjà votre rencontre avec lui? Et ensuite, Gilles Boeuf, le regard bien sûr du chercheur et du scientifique.
Oui, moi j'ai rencontré Paul Watson à Paris en janvier 2005. Il venait faire une petite conférence, donc c'était assez intimiste. On était une trentaine de personnes. Et ce jour-là, j'ai entendu un discours qui était tout à fait en adéquation avec ma pensée, avec ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, même si j'étais déjà engagée dans d'autres organisations environnementales, j'avais jamais vraiment trouvé ma place. Donc j'étais obligée de faire des concessions un peu sur ma façon de voir les choses. Et je me suis complètement reconnue dans ce qu'il disait. Et surtout, pour la première fois, je voyais quelqu'un qui mettait ça en action. Donc il n'y avait pas que les mots, il n'y avait pas que le discours. Il allait au charbon. Et ça m'a plu. Donc je lui ai demandé comment je pouvais, moi, participer aussi à mon échelle. Il m'a dit, si tu es prête à risquer ta vie pour une baleine et que tu as du temps, alors viens sur les bateaux.
On adhère pas, mais quand on rentre dans cette association, on sait que il y a aussi ça. C'est, on est prêt à mourir pour l'enjeu, le combat.
Alors, il y a beaucoup de façons de rentrer, de soutenir Sea Shepherd. Donc, risquer sa vie, c'est c'est pour ceux qui sont engagés sur les bateaux. Il y a beaucoup plus de personnes qui nous soutiennent et qui participent à terre, à leur façon et dans leur vie de tous les jours, ou en s'engageant dans des groupes locaux. Par contre, c'est vrai que quand on est en mer, on est face à des gens qui sont souvent sans scrupules, et du coup dans des situations qui sont à risque. Et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on postule.
Paul Watson est sur la liste rouge, la notice rouge d'Interpol, normalement réservée pour les criminels de guerre et les tueurs en série, si je ne m'abuse. Il y a ces accusations portées, sa tête est mise à prix par la mafia taïwanaise. Il a été arrêté en 2012 en Allemagne et à ce moment-là, de 2014 à 2016, il a trouvé refuge en France. Mais ce combat n'a jamais fait de victime jusque-là.
Ah non, on n'a jamais blessé personne, personne n'a jamais été tué, ni de notre côté, ni du côté de nos adversaires. Et on entend bien garder ce bilan immaculé. Donc on prend les précautions nécessaires justement pour...
ne pas être dans l'illégalité, bah, c'est ça ?
Pour ne pas perdre de vie en essayant de sauver des vies, parce que ce serait illogique. Et puis effectivement, rester dans le cadre de la légalité, pourquoi ? Parce qu'il y a déjà suffisamment d'actions de braconnage sur lesquelles il faut travailler pour s'attaquer à autre chose. Je pense que les dommages de la pêche industrielle, de la surpêche, qui est légale mais immorale, doivent être combattus sur un autre terrain. Quand on est en mer, on s'attaque vraiment aux braconniers qui enfreignent les lois.
Gilles Boeuf, un personnage comme Paul Watson est toujours intriguant. On imagine quand on est chercheur, scientifique, spécialiste de l'océan comme vous l'êtes et au fait aussi de toutes ces associations qui sont là et qui remplissent un rôle. Votre rencontre avec l'homme s'est faite comment ?
Oh, vous savez, tout à l'heure on a parlé d'aspect entier. Donc quand on détestait et l'aimait, je l'aime clairement. Beaucoup plus de ce côté-là que de l'autre. Non, parce que, encore une fois, je suis un peu comme la mienne. Moi, j'aime les gens qui arrêtent de dire « je vais faire ». J'aime les gens qui ont fait. On suit ça. Alors moi, on parle souvent de s'aventurier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes expéditions liées à la découverte de l'océan qui ont été des histoires extraordinaires. Et Paul Watson est un personnage, je comprends qu'il puisse effectivement poser question pour certains. Je dirais que quelquefois, en environnementaliste, basta, on en a marre quoi, de prêcher des tas de choses. Et puis finalement, si des gens actent dans les limites de ce qui est exprimé l'ami à l'instant, moi je trouve ça très bien. Après, bien sûr, on peut discuter dans le détail. Donc le personnage, moi, il m'est largement beaucoup plus sympathique qu'autre chose. Il a un peu rôle de gourou aussi. Je vois un petit peu comment sont les relations entre tout le monde. Mais est-ce qu'il faut quelquefois, dans le mouvement environnementaliste, en arriver là ? Pourquoi pas ? Ça ne me gêne pas du tout. Ce qui est clair, c'est que le combat qu'ils ont est important parce que par la loi classique et par les actions classiques, à la fois des mouvements qui sont dans les Nations Unies ou ailleurs, et puis à la fois au niveau des ONG, bon, c'est pas toujours très efficace dans le résultat. Faut voir que les baleines dont on parle là, bon, c'est un tout petit groupe de mammifères finalement, des baleines, il doit y avoir 11 espèces ou 12 des espèces de baleines, après il y a une centaine en tout dans ce qu'on appelle les cétacés. Elles ont été massacrées depuis longtemps. Mais lorsqu'une baleine est tuée par un peuple autochtone sur un bout de côte quelque part dans le monde, depuis la nuit des temps en fait, bon. Ça n'a jamais créé de problème particulier, ni écologique, ni moral, ou quoi que ce soit. Les gens vivaient de cela. Aujourd'hui, on en a, clairement, on n'en a plus besoin. Il faut se rendre compte et dire à nos auditeurs que on a éclairé des villes pendant des dizaines d'années, je pense à Bedford, par exemple, avec de l'huile de baleine. Vous vous rendez compte que de la non sustainability, pour parler en anglais, c'est aucune durabilité. Évidemment que ça va s'arrêter. Les animaux sont peu féconds. D'abord, ce sont les plus gros animaux qui ont jamais existé sur la Terre. On a la chance de les avoir avec nous aujourd'hui. Alors, gardons-les avec nous. Ils sont plus grands que les dinosaures.
Peu dangereux aussi. La baleine est plutôt inoffensive pour l'homme.
Complètement. Puis, de toute façon, mais même l'animal dangereux ne me gêne pas. Vous savez, moi, pour moi, le seul animal dangereux, je mets tous les serpents les plus venimeux possibles ou les fauves les plus dangereux, c'est le mâle d'Homo sapiens. Voilà. C'est la seule espèce qui vraiment me préoccupe aujourd'hui. Et que les mâles. Alors, oui, on est quand même sur quelque chose de particulier. Non, on n'en a pas besoin. Ça veut dire qu'aller chercher, comme le disent les Japonais, des sous-produits absolument indispensables. C'est faux. Quand les Japonais nous disent, effectivement, nous avons le droit à des pêches scientifiques. Moi, je suis un scientifique. Je reconnais un scientifique par ses publications. Si on dit rien, on ne sert absolument à rien. Donc, on va travailler, publier une synthèse des résultats. J'attends toujours de voir des papiers japonais depuis une trentaine d'années sur les baleines. Il n'y en a pas. Donc, c'est un prétexte pas possible. On a eu cette célèbre histoire de Palombi qui était allé, en fait, manger dans des restaurants japonais. Ils ont droit à 3 espèces japonais, je ne sais plus. La dame me le dirait très bien. En fait, il y en avait 14 en vente légale au Japon. Donc, de qui se moque-t-on? Donc, il y a des actions à certains moments de gens qui disent finalement, basta, ça ne marche pas, on y va. Moi, je trouve ça pas mal du tout, En tant qu'humain, Et en tant que scientifique, c'est vrai qu'il porte une parole intéressante.
Lamia Essem-Lali, pour bien faire comprendre aux auditeurs, donc Sea Shepherd, est-ce qu'on peut dire que finalement c'est une association assez artisanale hein, par rapport à d'autres associations telles que Greenpeace?
Ah bah, je pense que effectivement, même si on a 40 ans, on est resté à une taille très restreinte. Pour donner un ordre d'idée, le budget international de Sea Shepherd, c'est 11 millions d'euros. Celui de Greenpeace, c'est plus de 350 millions d'euros. Voilà. En termes de personnel, entre guillemets, on est à peu près à une trentaine de personnes. Et chez Greenpeace, je crois qu'ils sont 1500 au niveau international. Donc effectivement, ça donne un peu la mesure des différences. Maintenant, nous, on est vraiment focalisés dans l'intervention et dans la défense de la vie marine. Si on y arrive aujourd'hui avec une flotte de bientôt 13 bateaux, c'est principalement parce que la plupart de nos activistes, une énorme majorité, hein, on parle de 95%, sont bénévoles. Et parce qu'on a un soutien grandissant du public. C'est vrai que sur les 10 dernières années, la notoriété de Sea Shepherd a explosé. Quand moi j'ai rejoint il y a 13 ans, on avait un seul bateau qui avait 50 ans d'âge. Aujourd'hui, comme je le disais, on est à 13 bateaux. Donc on arrive à mener de front plusieurs campagnes par an, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait du mal à financer déjà une campagne antarctique par an. Ça siphonnait tous nos fonds, tous nos moyens humains. Donc il y a une évolution. On est toujours dans une problématique où malheureusement, on est obligé de faire des sacrifices de campagne, puisque le fait aussi d'être plus connu fait que on nous alerte de plus en plus sur plein de problématiques. Malheureusement, on peut pas être partout puisqu'on est limité par le nombre de bateaux et puis surtout par leur entretien, par le financement même des missions. Mais voilà, c'est le jour et la nuit avec ce que c'était il y a 13 ans.
Donc pour être très précis, hein, j'ai précisé que Paul Watson a été l'un des fondateurs de Greenpeace, hein, qu'il a choisi un autre chemin. Sea Shepherd a été lancé en 1979 et l'antenne France créée en 2006 avec vous-même justement, Lamia Essem-Lali. Je vous propose d'écouter tout de suite un message laissé par Paul Watson qui, comme on l'a compris, ne pouvait pas être avec nous de par la situation aussi judiciaire. Hein, ce mandat d'arrêt donc qui court toujours et il nous a livré quelques vidéos et des messages pour De Cause à Effet et vous allez l'entendre tout de suite. Il s'adresse aux jeunes et son message, c'est « Si l'océan meurt, nous mourrons aussi ».
Le message que j'aimerais faire passer en particulier aux jeunes, c'est celui que je porte depuis des années. « Si l'océan meurt, nous mourrons ». De ce fait, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour protéger ce support de vie de cette planète. L'océan produit 80% de l'oxygène que nous respirons. Il régule et contrôle le climat. Les gens sont très focalisés sur les événements climatiques, mais c'est de là qu'il faut partir, protéger la diversité dans la mer. La Terre est comme une navette spatiale, et l'océan et la mer sont le système qui assure la vie de cette navette. Elle est conduite par un équipage fait des créatures qui vivent dans la mer, qui produit l'oxygène et maintient la biodiversité et assure l'intégrité de notre écosystème. Et on est en train de tuer cet équipage. Il faut préserver ces sentinelles qui nous font vivre sur cette planète. C'est de la responsabilité de tous, quelles que soient les origines, les croyances. L'océan est à la base de notre système de vie.
Gilles Boeuf, faisons avec vous un état des lieux, justement, où on en est, de ce poumon de la Terre, et puis on ne peut pas s'en passer. C'est vrai qu'on ne parle pas tant que ça de l'océan, quand on parle du réchauffement climatique, des enjeux environnementaux. Le spectre est tellement large qu'on a tendance à oublier, mais que c'est là que tout se joue.
Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que l'océan, en fait, il n'y a aucun député dans l'océan, il n'y a pas de gens qui votent pour l'océan, donc on l'a oublié. Vous vous rendez compte, on en a passé 20 COP, 20, sans parler d'océan. L'océan est le principal régulateur du climat, mais c'est l'océan vivant qui est ce régulateur du climat. Il ne pourra pas jouer ce rôle s'il n'est pas vivant. Là, on parle de baleines. Bon, les baleines, je les adore, mais c'est pas l'aspect essentiel. La base de l'océan, c'est quand même toute la vie micro-organismique. 98% de la masse de tout ce qui est vivant dans l'océan, ce sont des virus, des bactéries et des micro-algues. Et c'est toute la naissance de la vie, en fait. Où qu'on aille dans le monde, nos amis de Tara Océan ont fait des très jolies campagnes entre 2009 et 2013. Ils sont aujourd'hui en Asie. On a séquencé les 3 premiers mètres de l'océan. On a ramené 700 000 nouvelles séquences, alors que on connaît aujourd'hui un petit peu moins de 300 000 espèces connues dans l'océan. Donc ça veut dire qu'il est absolument essentiel parce qu'il est vivant. Il joue ce rôle sur la régulation du climat parce qu'il est vivant. La grosse différence entre l'océan et des écosystèmes terrestres, c'est qu'on ne peut pas détruire l'océan. Je peux détruire une mare, je l'assèche complètement, je peux arracher une forêt. Ce qu'on détruit sur l'océan, c'est le littoral. Et cette mince frange qui est fondamentale du passage de la vie de la terre à la mer et de la mer à la terre est en cours de destruction systématique. Allez en Méditerranée, allez voir ce qu'on a fait des côtes en Espagne, en Croatie, en France aussi, bien évidemment, sur la Côte d'Azur. Donc, on détruit le littoral. Ensuite, on le pollue, cet océan. Et c'est dramatique. C'est vraiment... Ça se voit pas. On parle beaucoup des plastiques, tant mieux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des métaux lourds. Il y a ces fameux perturbateurs endocriniens. Récemment, on m'amenait un petit poisson plat de la baie de Seine. Il avait un ovaire et un testicule. Il ne savait pas s'il était garçon ou fille, en fait, hein, pour des produits qui sont amenés par la Seine, bien sûr, en aval dans la région du Havre. On le pollue. On détruit le littoral, on le surexploite, la mienne l'a dit tout à l'heure. On a un bon tiers aujourd'hui des stocks de... D'abord, est-ce qu'on peut appeler un stock une réserve de poissons? C'est une vraie question qu'on peut discuter. En tout cas, aujourd'hui, il y a un tiers totalement surexploité. Philippe Curie nous dit, en 15 ans, on a exterminé 90% de tous les grands animaux des poissons pélagiques. De qui se moque-t-on? On n'a jamais pêché autant de thon qu'aujourd'hui, bien sûr. Ensuite, bien sûr, ces océans, on dissémine tout partout. Quand on voit un tanker géant qui quitte Rotterdam avec 250 000 tonnes d'eau de mer et qui va la relarguer à Abu Dhabi ou à Oman, c'est en relarguant ce que j'évoquais tout à l'heure, des virus, des bactéries, des micro-algues, et enfin le climat qui change l'affecte, mais lui changeant affecte aussi le climat. Donc ça fait beaucoup. Et on oublie, je dis souvent ça un petit clin d'œil, en fait, c'est que l'humain, c'est un petit océan quelque part. On est moins salé, à peu près un tiers d'océan. Et c'est vrai que pourquoi a-t-on dans du sang humain du sodium, des chlorures, du potassium? Où qu'on aille dans l'océan, il y a 11 millimoles de potassium. Bah, l'humain, il en a 3. Donc, toute la vie, c'est basé sur le système océanique pour démarrer. Et l'humain résulte du même système. On appartient tout à fait à ce système global. Donc, je trouve qu'il y a un côté éthique. Moi, j'aime pas le mot moral. Il y a un côté éthique clair de retrouver une harmonie avec cet océan. On en vient, la vie en vient, nous en venons. On peut pas s'en passer, et pas uniquement pour des raisons de ressources halieutiques. On a sorti aussi, il faut le dire, à peu près 26 000 molécules d'intérêt de médicaments ou de produits cosmétiques de l'océan. Pour tout ça, et pour l'aspect éthique que j'évoquais, il faut absolument qu'on s'en préoccupe beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et pour ça que l'action de Sea Shepherd, effectivement, va dans ce sens.
Lamia Essemlali, dans votre livre, justement, vous précisez quand même que 40% des poissons pêchés servent à nourrir les animaux et les poissons d'élevage, et qu'on est aussi aujourd'hui face à ces incohérences quand même.
Bah, le problème, je pense, c'est que les gens ont encore trop de mal à faire le lien, cette connexion entre leurs actes quotidiens, leurs choix de consommation et l'impact que ça peut avoir sur l'océan. Donc effectivement, aujourd'hui, quand on mange de la viande ou du poisson d'élevage, on mange aussi l'océan. Ce que disait Gilles tout à l'heure est tout à fait pertinent par rapport aux baleines et aux virus. C'est vrai que l'océan fonctionne beaucoup sur la base de cette vie qui est microscopique. Et le message de Sea Shepherd, il est aussi de dire que si on n'arrive pas à sauver des animaux qui sont aussi charismatiques que les baleines, ça va être compliqué de sensibiliser les gens à la survie des virus et des micro-algues. Et le fait est que ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment tout ça est lié. Donc nous, on fait beaucoup de campagnes. Effectivement, on est plus connus pour les baleines, mais on fait des campagnes pour les requins, qui ont malheureusement cette réputation de mangeurs d'hommes, qui ne méritent pas vraiment, et aussi pour les concombres de mer, pour le krill. C'est très difficile, en fait, d'intéresser les gens à ces campagnes-là. Et pourtant, elles sont essentielles.
Oui, c'était plus facile aussi, au tout début, d'ailleurs, par rapport aux phoques, parce qu'il faut préciser que Paul Watson, gamin, il avait 10 ans, je crois, a assisté sur les bords du Saint-Laurent au matraquage, à mort d'un phoque, et que ça a vraiment déclenché, tout gamin, son envie de sauver ces espèces animales. Et que aujourd'hui, on est encore face à des massacres qui ont lieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire concrètement quels sont les pays qui se livrent à ces scènes, souvent illégales?
Pour ce qui est du cas des massacres de bébés phoques, ça continue aujourd'hui au Canada, dans des proportions moindres qu'à l'époque dans les années 70, mais c'est quand même des dizaines de milliers de bébés phoques qui sont tués chaque année. Ça commence en mars d'ailleurs. Ça n'a absolument aucune justification économique parce que c'est subventionné par le gouvernement canadien. Les chasseurs de phoques, en fait, utilisent le prétexte assez fallacieux. Ils disent en fait que les phoques mangent trop de morues et que c'est à cause d'eux qu'il n'y a plus de morues. C'est le même prétexte qui est invoqué par les chasseurs de dauphins à Taïwan, au Japon, qui disent que les dauphins mangent trop de poissons et donc qui vont les tuer. Alors eux, ils arrivent à les tuer parce qu'ils sont subventionnés par l'industrie de la captivité, qui se sert en fait dans les dauphins les plus beaux, les mâles femelles reproductrices, et qui laisse le reste des dauphins se faire massacrer. ce qu'il y a de plus aussi pernicieux, j'ai envie de dire, et ça on s'en rend un peu compte, mais nous on commence à travailler dessus, c'est tout ce qui est capture entre guillemets accidentelle. Il faut savoir que le long des côtes de Charente-Maritime et de Vendée, en France, en 3 mois, entre janvier et mars, on tue plus de dauphins qu'aux îles Féroé ou au Japon, puisque Pélagis a sorti un communiqué l'année dernière qui estimait à jusqu'à 10 000 dauphins tués sur cette période dans cette zone-là. Et c'est essentiellement par des chalutiers pélagiques qui pêchent principalement du bar dans les zones de frayère. Et ça, c'est chose que le grand public ne perçoit pas, n'a pas conscience, mais aussi parce qu'il y a toute une opacité qui est organisée autour de ça. Donc c'est là-dessus qu'on va essayer de lever le voile. Donc il y a ce qui est évident, donc le braconnage sanglant, on va dire, et puis il y a tout ce qui est beaucoup plus pernicieux.
Vous parlez aussi, par exemple, puisqu'on en est à la France ou aux îles françaises, vous parlez aussi de Mayotte, où des tortues protégées sont tuées pour leur chair.
Oui, exactement. Alors les tortues à Mayotte sont tuées pour leur chair dans une minorité par des gens qui en ont besoin pour se nourrir, mais pour l'essentiel, c'est pas ça. Pour l'essentiel, il y a un véritable trafic de viande de tortue, un marché noir de viande de tortue qui s'est mis en place à Mayotte et qui va jusqu'à Madagascar, où la viande de tortue peut se vendre jusqu'à 30 euros le kilo. Donc c'est des tortues qui sont complètement livrées à elles-mêmes sur les plages, avec quasiment aucune protection, si ce n'est celle qu'on a commencé à faire l'année dernière, mais on est dépassé par l'ampleur de la tâche, il va falloir qu'on redouble d'efforts. Et la France a cette responsabilité de protéger cette biodiversité. La France est le deuxième territoire maritime le plus grand au monde. On a sous notre responsabilité la survie d'une énorme portion de biodiversité marine. Et pour l'instant, malheureusement, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu.
Gilles Boeuf, quelle est la possibilité d'agir finalement? Parce que on voit bien qu'il y a ces associations plus combatives, plus dans l'action, comme celle de Sea Shepherd, d'autres plus dans l'image, l'envie de dénoncer sans forcément arrêter le massacre. En haut lieu, au niveau des pays, des gouvernements, peut-être même des COP, des forums, dénoncés par Paul Watson, qui estime que rien ne s'y fait, que c'est un brassage de mots. Qu'est-ce que vous en pensez?
La question c'est, pourquoi la genèse de Sea Shepherd finalement? Si le système légal avait été respecté, il serait pas né comme ça, il serait battu en militant. Mais moi, je comprends qu'à un certain moment, on en a marre, je pèse mes mots, effectivement, d'un système qui n'avance pas et qui piétine. Moi, ça fait 20 ans que je fais des conférences partout. Alors, ça avance, ça serait pas juste de dire que ça n'avance pas, mais pas suffisamment vite. Nos capacités à dégrader sont bien supérieures aux prises de conscience. J'adore Edgar Morin, c'est un peu mon maître à penser, quand il nous dit, effectivement, on est dans une accélération incroyable de la science, de la technique, de la technologie, mais on est encore dans l'enfance de toute l'éthique que l'humanité doit avoir vis-à-vis de cela. Je vis très bien dans ma chair, je suis dans le conseil scientifique, de la création de parcs marins. On a tous envie d'en avoir un maximum, mais chaque fois qu'on veut en créer un nouveau, on se pose vraiment la question, qu'on ne devrait pas se poser, est-ce qu'on le crée? Puisque ça sera au détriment de ceux qu'on a déjà créés, puisqu'on n'a pas de nouveaux postes et pas de nouveaux moyens. Donc c'est une vraie question. Bien sûr que j'ai envie de dire oui. Je terminerai sur la question des australes. La France a une très très grande responsabilité. On a fait une très grande réserve, les glorieuses, les australes. Moi je suis moi-même au conseil scientifique des terres australes et antarctiques françaises. Quels moyens mettons? On se rend compte qu'aujourd'hui, on a réussi à légiférer des choses. La pêche à la légine va beaucoup mieux. La légine va beaucoup mieux qu'il y a 40 ans, où on faisait tout et n'importe quoi. Moi, je suis pas un anti-pêche par définition au départ. Un anti-surpêche total, viscéralement jusqu'au bout. Et c'est là où je veux que ça va pas. Tuer, surtuer par rapport à ce que la nature nous renouvelle chaque année, franchement, c'est vraiment stupide pour une espèce qui s'est appelée sapiens.
Alors Paul Watson, dans le livre, en appelle à la création d'une police internationale des mers. Est-ce que ça doit passer par là? Finalement, c'est la solution idéale? Parce que c'est vrai qu'une association, on imagine comme Sea Shepherd, n'a pas les moyens de sillonner l'océan.
Puis c'est pas son rôle. Quel est le rôle de ces ONG-là? Ce sont des donneurs d'alerte, des activistes. Moi, oui, ok, puisqu'on fait rien. Mais dans ces conditions-là, il faut absolument que ce soit repris et relayé au niveau international. L'océan, par définition, il est ouvert. Si on n'avait jamais parlé d'océan, c'est parce que justement, écoutez, on ne sait pas à qui ça appartient, c'est à tout le monde. Puis c'est très cynique ce système-là, parce que là, tout ce qu'on raconte est important. Mais en ce moment, on est sur des milliers de permis déposés d'exploitation des fonds océaniques. On va recommencer sur l'océan ce qu'on a fait sur les continents, avec des choses qui sont très difficiles à exploiter. Et le jour où ça ne marchera pas à 3, 4 000, 5 000 mètres de profondeur, comment on va intervenir? Donc c'est là, effectivement, qu'il nous faut absolument un système. Avant de faire n'importe quoi, mettre en place un fonds déjà, pour réagir le jour où il y aura des clashs, il y en aura des clashs. Et deuxièmement, il faut que ce soit bien sûr au niveau international. Mais le cynisme fait dire que des gens nous disent, écoutez, de toute façon, faites ce que vous voulez, de toute façon, on a les moyens militaires pour aller chercher, de toute façon, on a besoin, là où on veut, on le fera. ça fait froid dans le dos. Et sur l'Antarctique, moi, je suis toujours pas plus rassuré sur, effectivement, demain encore, la survie des traités antarctiques et de la non-exploitation de l'Antarctique et du non-usage antarctique à des fins militaires. Je suis pas convaincu que ça va pas revenir un de ces jours.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Alors, on a compris que l'exploitation des fonds marins n'allait pas s'arrêter, que de nombreux permis étaient déposés et qu'effectivement, la prise de conscience en haut lieu n'était pas forcément celle qui allait faire évoluer les choses. Lamia Essemlali, ces campagnes menées par Sea Shepherd ont aussi pour objectif peut-être de sensibiliser la société civile qui, elle, a un véritable pouvoir, mais ne se rend pas toujours compte.
Oui, je pense qu'un des intérêts des actions coup de poing de Sea Shepherd, c'est justement de créer une sorte d'électrochoc. Donc ça intéresse médiatiquement et puis ça suscite l'intérêt des gens et aussi beaucoup des jeunes. Et ça, c'est important. Ça permet ensuite aux gens de réaliser ce qui se passe en mer et auxquels ils n'ont pas forcément accès. Donc sensibiliser sur des problématiques qui sont peut-être un peu plus complexe que ce qui n'y paraît et rendre vraiment accessible, intéressé. Je pense que le fait d'être très pragmatique et dans l'action, ça évite aussi l'ennui et le sentiment d'impuissance. Et effectivement, la société civile, c'est elle qui a le pouvoir en main, puisque c'est finalement c'est elle qui consomme, c'est elle qui vote. Voilà, il faut que le changement vienne de la société civile. Je pense que le changement, il se fera du bas vers le haut. Et en haut, ils seront obligés de suivre le jour où l'impulsion sera trop forte au niveau des citoyens pour être ignorée.
Alors, il y a un thème qu'on n'a pas abordé, mais qu'on va aborder maintenant, rapidement, avant le choix musical, qui sera celui de Gilles Boeuf, d'ailleurs. Je ne dis pas encore lequel, mais on va le découvrir. L'intelligence animale. Est-ce que vous, par rapport à cette faune de l'océan, vous avez approché cette intelligence animale? De quelle façon est-ce qu'elle s'est montrée à vous, Gilles Boeuf?
Bien entendu, vous savez, je vais être un peu trivial, on les prend pour des cons, les animaux, puisque nous, on est tellement supérieurs, on est tellement dignes. Alors, je me suis longtemps battu pour qu'on fasse reconnaître une dignité à l'animal. Je me rends compte que c'est un combat, je ne peux pas, on verra plus tard, peut-être dans 100 ans, alors j'arrête. Mais dans ce cas-là, la dignité de l'humain, la seule qui existe, puisque c'est la seule qu'on admette, fait qu'on doit s'occuper et respecter l'animal. Il faut toujours se dire une chose, si une espèce vivante animale est là en ce moment, c'est parce qu'effectivement, elle est capable d'avoir perduré pendant aussi longtemps. Et ça, quand on est stupide, on peut pas perdurer comme ça. Il faut que l'humain l'admette. En plus, ce qui me gêne considérablement, moi, en chercheur, c'est qu'on fait une différence entre l'animal domestique et l'animal sauvage. Il n'y en a aucune. L'animal, c'est l'animal. Alors après, il y a la grosse question qu'on me pose toujours, quand commence l'animal? Pour un zoologiste, ce sont les éponges, les premiers animaux. Bon, je sais pas si on peut parler effectivement d'intelligence de l'huître, c'est une question intéressante. D'ailleurs, quand des écolos trop forcés dans l'autre sens qui viennent me dire, vous savez, le dauphin serait plus intelligent que l'humain, je leur dis, bah écoutez, ça commence où? Ça commence chez l'huître. Alors ça les énerve un peu, j'aime bien provoquer les extrêmes dans tous les sens. Non, ce qui est clair, c'est qu'on doit avoir effectivement aujourd'hui une vision différente. On me dit, on publie en France une loi en janvier 2015 on reconnaît l'animal comme étant sensible. Il devient sensible en janvier 2015, alors, ça m'énerve considérablement. Il est sensible depuis les origines, sinon il ne serait plus là. On reconnaît, nous, cette sensibilité pour le droit français. Mais ça reste toujours un meuble, l'animal.
Voilà, j'allais dire, donc, si ce n'est que jusque-là, il n'était qu'un bien meuble.
Et puis quand il a un propriétaire, bon, c'est une question de propriétaire. Ça n'a pas de sens. En plus, il y a des choses qui m'énervent considérablement. Le faisan d'élevage, c'est un animal domestique. On le lâche, on tire dessus, il est devenu un animal sauvage. Bon. Il y a vraiment des questions qui sont essentielles. C'est que du bon sens. Et ce que j'aime bien, c'est amener mon interlocuteur à se poser des questions qu'il ne se posait pas auparavant là-dessus et de finir, avant que moi je dise quoi que ce soit, je ne veux pas être un juge ou quoi que ce soit, ni un donneur de leçons, ben franchement, c'est vrai que ce que je pensais, c'est vraiment stupide. Et là, on commence un petit peu à gagner. Et je suis d'accord avec Lamia sur le mouvement du bas vers le haut. Donc aujourd'hui, l'animal, il faut les prendre pour ce qu'il est. Il nous accompagne. Sans ces animaux, on ne serait pas là. Sans les plantes non plus, d'ailleurs. Et puis mes micro-organismes tout à l'heure aussi, bien évidemment. On fait viscéralement partie d'un système. Je rappelle qu'un corps humain, c'est au moins autant de micro-organismes que de cellules humaines. Et un bébé humain à la naissance, c'est trois quarts de flotte, alors qu'on arrête. On est fait de flotte et de bactéries, alors qu'on arrête de nous dire qu'on est tellement extraordinaire. Donc, l'animal, non, c'est une vraie question aujourd'hui, l'animal doit être pris pour ce qu'il est. Une fabuleuse performance dans un système, tous les jours, difficile de survie dans le milieu vivant.
Lamia Essemlali, cette rencontre avec l'intelligence animale?
Quand on parle par exemple de l'intelligence du dauphin, bon, dire que le dauphin est plus ou moins intelligent que l'être humain, je suis pas sûre qu'il faille le prendre comme ça. Le dauphin a une intelligence qui est taillée pour lui, pour être maître de son environnement. Et c'est pour ça qu'il a un cerveau extraordinaire, parce qu'il a un cerveau à quatre lobes. On sait aujourd'hui qu'il a des facultés de communication qui sont incroyables. D'ailleurs, on s'inspire de son sonar pour faire nos sonars à nous. Notre problème, c'est qu'on continue à comparer l'intelligence des animaux par rapport à nos besoins à nous. Donc, c'est vrai qu'un dauphin ne sait pas construire un l'ordinateur, il ne sait pas surfer sur Internet, il n'a absolument pas besoin de le faire. Il y a une phrase qui résume très bien la chose, c'est que si on juge l'intelligence d'un poisson à sa faculté de grimper à un arbre, on pensera toujours qu'il est stupide. Voilà, être intelligent, c'est réussir à vivre en harmonie avec son environnement. Et pour ça, on a beaucoup de leçons à apprendre du règne animal.
Gilles Boeuf, votre choix musical d'aujourd'hui, que j'adore aussi, voilà, confidence faite à nos auditeurs.
Ça, merci, c'est ma jeunesse. Ouais. Simon et Garfunkel, The Sound of Silence. C'est un joli titre, une belle chanson, et une belle histoire aussi, humaine aussi.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls.
The Sound of Silence, Simon & Garfunkel, le choix de Gilles Boeuf aujourd'hui. C'est la suite de Cause à effet sur France Culture, consacrée à l'aventure Sea Shepherd et à son initiateur Paul Watson, au devenir de l'océan, l'avenir de l'homme. Et nous en parlons avec Lamia Essemlali, fondatrice de Sea Shepherd France, auteur du livre Paul Watson, le combat d'une vie, paru aux éditions Glénat, et avec Gilles Boeuf, océanographe, professeur à l'université Paris Pierre et Marie Curie, Sorbonne Université, et auteur du livre La biodiversité de l'océan à la Cité, livre à conseiller, paru chez Fayard, leçon inaugurale du Collège de France. Gilles Boeuf, est-ce que face à ces campagnes aussi, face à ces actions que vous menez les uns les autres, ou cette sensibilisation, enfin le message que vous essayez de passer, vous éprouvez parfois une forme de découragement?
Non, c'est pas dans ma nature. Ça m'énerve, bien sûr, que ça aille pas assez vite, comme beaucoup ici, je pense. Mais c'est pas dans ma nature. Je connais pas le découragement. Je suis pas, j'ai pas tendance dépressive. Je me dis, en fait, faut que je fasse encore plus. We have to change. On va rester en anglais. Si on ne change pas, on s'adaptera pas. Là, je suis physiologiste. C'est mon métier de base. Aucune espèce vivante, depuis que la Terre tourne, ne s'est adaptée à des changements sans changer. On change toujours pas. On peut pas. quand Einstein disait effectivement, le monde ne va pas mal des méchants ou des affreux, il va de ceux qui les laissent faire. Et puis, plusieurs ont dit des choses de ce style-là. C'est ça, en fait, qu'on fait. Ce que je veux aujourd'hui, c'est qu'on tue une économie actuelle qui consiste, en fait, à faire du profit en détruisant la nature, en la surexploitant. On peut changer ça. En fait, c'est pas un mouvement de droite et de gauche, hein. C'est du bon sens. Et si l'humain a aujourd'hui 7,6 milliards d'humains, demain probablement 10, veut... C'est pas la planète qu'on veut sauver, je dis souvent, elle s'en fout la planète. C'est le bien-être de l'humain. Il passe forcément par tout ce qui nous entoure, le bien-être aussi des animaux. Vous savez, ce qui est terrible quand on parle des animaux, c'est que quand ça va mal, on revient à la barbarie. Et dans les moments de barbarie, qui trinque en premier? Les femmes. Les enfants, les animaux, bien sûr, tout le système. Donc c'est extrêmement important. C'est pas une affaire uniquement, comme on le croit, d'écolo farfelu. C'est très important. Et l'océan, évidemment, c'est quand même 99% du milieu offert aux vivants sur la Terre. Donc il mérite un respect infini. Toute action, pour moi, qui est faite dans ce sens-là, doit être absolument menée très fermement.
Donc changer de modèle économique, changer notre mode de consommation aussi, parce que, comme vous le dites, Gilles Boeuf, et on aura l'occasion d'en parler la semaine prochaine avec Vandana Shiva, justement, c'est que face à ces enjeux environnementaux, il y a aussi des injustices environnementales, sociales, et qu'on risque, et c'est déjà le cas, des zones de conflit, voire de guerre civile. Lamia Essemlali, forme de découragement, oui, non, et les futures campagnes peut-être?
Non, pas de découragement non plus, parce que on se focalise pas non plus forcément sur le résultat, mais plutôt sur l'action. Et on mène nos combats en fonction de leur importance, de la légitimité et l'urgence d'agir. Je pense qu'effectivement, si on se posait trop de questions, peut-être que parfois on pourrait se laisser décourager, mais on avance, souvent on fait un pas en avant et on a deux pas en arrière. Donc quand on fait le bilan, c'est pas forcément toujours positif ou optimiste. Par contre, je pense que l'important, c'est de faire ce qu'on peut au moment où on peut le faire, avec les moyens qu'on a. Et c'est ça qui fait qu'on se sent bien. Indépendamment du résultat, bien sûr, j'espère qu'on va gagner, qu'on va réussir à faire évoluer nos consciences à temps. Mais si c'est pas le cas, en tout cas, on pourra se dire qu'on a tout fait. Pour.
Gilles Boeuf, avant de nous quitter, votre phrase fétiche, en tout cas celle qui vous guide au quotidien, peut-être le message que vous avez envie de faire passer.
Qu'est-ce qu'on a tué aujourd'hui? On a tué l'harmonie. L'harmonie du vivant, elle peut être très violente. Hein, quand un guépard abat une antilope, c'est une scène violente. Hein. Mais c'est harmonieux dans un système. Il y aura toujours effectivement plus d'antilopes que de guépards. Ça marche quand on parle de nos baleines. La vie des baleines, elle n'est pas simple. Hein. Quand des orques se mettent à attaquer un bébé baleine devant sa maman, la scène est horrifiante pour des humains au niveau de la violence de la situation. Ça fait partie du système, en fait. Et justement, l'humain s'est un peu sorti de tout ça. Il croit aujourd'hui que... Vous savez quelle était l'inquiétude de toutes les espèces vivantes? Chaque matin, celles qui peuvent penser à ça se disent « Est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je vais pas être mangé aujourd'hui ?» Donc on a changé nos modes de vie pour arriver à des choses un petit peu différentes, mais ça reste essentiel. Il faut que l'humain comprenne qu'il est intégré dans le système, qu'il n'y a pas une nature et un humain à côté. On est dedans. Et si on n'amenait pas ça, ça ne marchera pas. En plus, on comprendra que dans ce cas-là, chaque fois qu'on l'agresse, on s'auto-agresse. Et c'est quand même un peu stupide pour une espèce qui s'appelle sapiens.
Lamia Essemlali, votre message à vous.
Bon, je pense que ce qui pourrait éventuellement résumer notre message, c'est vrai que quand on dit que si on n'arrive pas à sauver les baleines, on sauvera rien d'autre dans l'océan, c'est que le combat est beaucoup plus large que celui de la défense des baleines. Parfois, on est confronté à des gens qui ont un certain cynisme et qui nous disent finalement, si les baleines disparaissent demain, bon bah c'est triste, mais qu'est-ce que ça va changer à ma vie? Alors d'une part, c'est pas simplement que le monde sera désenchanté sans baleines, mais c'est que sans doute que un monde sans baleines, ça sera un monde sans nous. Parce que voilà, si on n'arrive pas à sauver une espèce qui a un tel capital sympathique que les baleines, je vois pas comment on va sauver les requins, les thons dont tout le monde se fiche, ou le zooplancton. Donc sauver les baleines, c'est se sauver nous-mêmes. Et c'est finalement ce qui permet de cristalliser un peu ce lien qui nous unit au reste du vivant. Et effectivement, il s'agit pas de sauver la planète, parce que la planète va s'en remettre de notre passage sur Terre. Il s'agit de permettre aux conditions qui nous permettent à nous d'exister, de se maintenir. Et de se maintenir, si possible, dans l'harmonie, cette harmonie perdue, puisqu'on peut mourir physiquement, mais on peut aussi mourir spirituellement. Et quand on voit aujourd'hui où en est l'humanité dans ses rapports, ne serait-ce qu'avec elle-même, on peut s'interroger. Et je pense que vraiment, notre lien au reste du vivant et aux animaux détermine nos rapports entre nous.
Parce que comme le dit Paul Watson aussi dans le livre que vous avez commis avec lui, hein, Paul Watson, Sea Shepherd, le combat d'une vie paru chez Glénat, le futur de l'océan est notre futur. Et je rappelle aussi pour nos auditeurs le livre de Gilles Boeuf, La biodiversité de l'océan à la cité, paru chez Fayard. Merci à vous.
Merci.
Et puis vous restez bien sûr avec nous, c'est la suite de l'émission Les Échos de la Terre en partenariat avec le service Planète Sciences du Monde et en compagnie d'Alain Bougrain-Dubourg. C'est juste après notre revue d'info environnement. Quelques nouvelles de la planète avec en ligne de mire tout d'abord la pollution atmosphérique en France. On connaissait les NOx, les oxydes d'azote, depuis l'affaire du Dieselgate et celle des expériences menées par Volkswagen sur des singes obligés d'en inhaler à haute dose. Eh bien, on découvre maintenant les HAP, les HAP, substances encore plus nocives rejetées par les moteurs à diesel, dont le benzoapyrène, classé cancérigène par l'OMS et que l'on respire sous forme de particules ultra fines d'une extrême toxicité. Les HAP sont le nouveau scandale sanitaire dont on va beaucoup parler. C'est à découvrir sur lemonde.fr sous la plume de Stéphane Mandard. Et un crapaud sur un site de rencontre. Et oui, ça existe depuis le 13 février, veille de la Saint-Valentin. Des biologistes du Muséum d'histoire naturelle de Bolivie ont inscrit le crapaud Roméo, dernier survivant de son espèce, sur le site de rencontre américain Match.com. Il a 11 ans. Il ne lui reste que 5 ans pour faire la rencontre qui évitera à son espèce de s'éteindre. Et on apprend que le site s'est aussi associé à des ONG pour récolter des fonds afin d'aider des chercheurs dans leur quête d'une femelle. Et pour rappel, environ 74% des espèces de grenouilles dans le monde sont en déclin et c'est à lire sur ledauphiné.com.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Et qui remporte la palme du moins de cette semaine, c'est un décret du 29 décembre dernier qui offre à titre d'expérimentation un droit dérogatoire à certains préfets en matière de réglementation, notamment environnementale. L'inquiétude est palpable, vous pouvez découvrir tout ça sur le site Actu. Environnement. Et le plus de la semaine revient à une vidéo, celle diffusée cette semaine sur Internet par ONU Environnement pour la campagne Océan Propre. L'histoire d'une rupture, celle de Sandra, une jeune femme avec les plastiques. De l'humour efficace dans cette vidéo à découvrir aussi sur notre site et sur Facebook.
C'est l'association L214, Éthique et Animaux, qui a posté cette vidéo. Depuis, pétitions, réseaux sociaux, la toile s'enflamme. 36 parlementaires se sont mobilisés. Ils interpellent directement le ministre de l'Agriculture.
Qu'ils s'intéressent de près au dossier et qu'ils demandent à un certain nombre de scientifiques, de praticiens, s'il n'y a pas des solutions, disons, moins cruelles.
En janvier 2015, l'Assemblée nationale votait une loi qui reconnaît l'animal comme un être sensible. Pour cette association, il reste encore beaucoup à faire.
Aujourd'hui, ces pratiques de broyage, d'élimination des poussins, etc., choquent de plus en plus le public. On sait que les animaux sont des êtres sensibles, etc. Donc aujourd'hui, il faut trouver des alternatives. On peut plus supporter de considérer les animaux comme des déchets, comme des objets. Et des alternatives, il y en a.
À l'exemple de l'Allemagne, qui prévoit dès 2016 la mise en place d'un système de détection dans l'œuf du sexe du poussin pour éviter de telles pratiques.
Et c'est la suite de Cause à effet. On poursuit avec notre seconde partie, Les Échos de la Terre, avec vous, Alain Bougrain-Dubourg. Merci.
Bonjour.
D'être là. Je rappelle que vous êtes journaliste, membre du Conseil économique, social et environnemental et président de la Ligue pour la protection des oiseaux, la LPO. Et votre dernier livre s'intitule Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes. Livre paru aux éditions Les Échappés. On entendait à l'instant un sujet, un reportage diffusé sur France 3 le 11 août 2015 qui parlait de cette souffrance animale, qui parlait bien sûr de ses actions, aussi de ses parlementaires qui essaient de porter la parole. Cette parole des animaux, vous avez choisi de nous la rendre de cette façon-là, c'est-à-dire vous faites parler les animaux par ces lettres. Alors c'est vrai qu'on peut vous le reprocher, mais les éthologues ont montré que les animaux étaient doués de sensibilité, d'empathie, de stratégie et d'intelligence. Donc ces lettres ont du sens.
Oui, dans cette émission notamment, on a vu combien il y avait des avocats du monde animal qui plaident leur cause. Et moi, je me suis engagé depuis longtemps dans cette démarche aussi. Et je me suis dit, au fond, ça peut être peut-être un exercice de style. Et si on leur donnait la parole, peut-être seraient-ils capables de se défendre mieux que nous le faisons nous-mêmes. Alors évidemment, on flirte un peu avec l'anthropomorphisme, mais au fond, on constate chaque jour davantage par l'éthologie que le fossé qu'on a voulu creuser entre l'homme et l'animal se comble par les nouvelles connaissances. L'animal est capable de rire, de pleurer, d'être en compassion, de tricher, de mentir, de bien des choses, de faire l'amour tout simplement ou le plaisir sexuel sans nécessairement pérenniser l'espèce comme on l'a souvent cru. Et voilà, donc l'idée était que le taureau s'adresse au torero, que l'ortolan s'adresse au braconnier, que le porc s'adresse à l'éleveur et bien d'autres choses encore.
Votre sensibilité à vous, Alain Beaugrain-Dubourg, remonte à quand? La petite enfance aussi, à l'image de Paul Watson?
Ah oui, moi j'ai monté un club des jeunes amis des animaux, j'avais 11 ans, au lycée Eugène Fromentin à La Rochelle. Et cette passion de l'animal, j'étais un peu curieux de nature, ne m'a jamais quitté. J'ai eu la chance de faire de ma passion un métier. De façon un peu improbable, parce qu'en vérité, j'ai bac moins un, et donc pas question d'être vétérinaire ou autre, et ce sont les circonstances de la vie qui m'ont permis de courir le monde à la rencontre de tous ceux qui se préoccupent de la connaissance et évidemment de la protection des animaux. Et il y a deux choses qui se conjuguent, c'est d'une part l'approche naturaliste, on va dire, que sait-on du monde animal, ces espèces qui disparaissent, qui s'éteignent. On vient de parler des batraciens, une espèce sur trois qui disparaît, une espèce de mammifère sur quatre, une espèce d'oiseau sur huit. Et puis, simultanément, la condition animale, est-ce qu'il est acceptable aujourd'hui de s'accommoder de la souffrance qu'on pourrait faire reculer? Et malheureusement, en France particulièrement, il y a ces deux courants, ces deux sensibilités qui ne se conjuguent pas suffisamment. Moi, je me suis employé toute ma vie à essayer de réconcilier les amis des bébés phoques et les amis des ortolans. Voilà. Et je crois que ça participe du même combat.
Et en prenant pas mal de coups dans votre vie, d'ailleurs. Oui. Voilà, il reste que quelques archives.
J'ai le cuir tanné.
C'est ça, apparemment. Alors, vous démarrez votre livre avec une première lettre, celle du cochon à l'éleveur. Et c'est vrai qu'on découvre, pour ces espèces animales qui font partie de notre quotidien, finalement, une souffrance que l'on ne soupçonne pas forcément.
Pour le porc, par exemple, c'est incroyable. D'abord, on a fabriqué des animaux. Dans quelques jours, c'est le salon de l'agriculture. Et on se gardera bien de dire, par exemple, qu'on a perdu plus de 20 races dans les dernières décennies. Races de porc, pourquoi? Parce qu'il nous reste 3 ou 4 races productives, hyper productives de porcs aujourd'hui, qui sont sur le marché et qui conduisent à fabriquer des animaux qui ont, par exemple, 20 porcelets, les truies, alors qu'elles ont 16 mamelles. Qu'est-ce qu'on fait du surplus? Eh bien, on appelle ça la cloison. Thérapie. Je rappelle quand même que c'est recommandé par l'Institut National du Porc. Ça consiste tout simplement à tuer les porcelets en les jetant contre le mur. Non mais attends, on rêve. Et les survivants, ils vont vivre quelque chose peut-être de pire encore. On va leur meuler les dents, on va leur couper la queue, on va les castrer sans anesthésie.
À vif, oui.
À vif, c'est honteux. Il y a d'autres pays qui font autrement, et tout ça, notamment la castration, parce qu'il y aurait une odeur quand le porc atteint sa maturité sexuelle qui est désobligeante quand on mange les extraits de cochon. Enfin bon, certains pays tuent le cochon avant la maturité sexuelle, tout simplement. Enfin, et puis on peut faire des anesthésies, voilà, il y a d'autres méthodes, mais on ne l'entend pas. Et moi, je rencontre les ministres, Monsieur Travers, tout récemment, je lui en parlais, je lui ai dit, il faut qu'on bouge. Stéphane Le Foll, ouais, là, on s'en occupe, t'inquiète pas, enfin bon. Et en vérité, le plus souvent, on dit, non, mais on est conforme avec l'Europe. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et par bonheur, il y a l'Europe qui nous tire vers le haut, il y a le modèle de certains pays comme l'Allemagne qui nous tire vers le haut, mais on est en décalage, on n'est pas... Et quand je vois que la France est le pays des droits de l'homme, je pense que ça pourrait être le pays du respect de l'animal, pas davantage. Voilà. Mais on n'y arrive pas.
Alors, restons en France. Vous parlez des ortolans. C'est vrai que c'est une bataille de longue haleine, j'ai envie de dire, parce qu'on est face aussi à cette position qui veut qu'on parle de tradition, on parle de culture. Là aussi, où en est-on? Et puis dites-nous concrètement, la chasse à l'ortolan est illégale, est interdite?
Oui, l'ortolan est un oiseau protégé, il faut le savoir. Alors, il est beau, il a beau être dans les coulisses de notre gastronomie, il a beau être dans notre culture, il est protégé, on n'a pas le droit de le capturer à n'importe quelle époque de l'année. Or là, on continuait à en capturer près de 30 000. La LPO s'est investie pendant près de 10 ans, en allant notamment sur le terrain, en sensibilisant les médias, etc., en prenant des coups, parce qu'il y a une violence. Moi, j'ai des menaces de mort en permanence. La chasse aux oies, qui s'arrête en principe au 31 janvier, et que les porteurs de fusils veulent développer jusqu'au 11 février, voire davantage, tout simplement pour louer des huttes de chasse près de 1000 euros la nuit, parce que c'est ça, c'est un business, la vérité, eh bien, elle conduit à des violences à notre égard qui sont pas acceptables, pas acceptables. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en fin de compte, bien, notamment par l'intervention de Nicolas Hulot qui a confirmé tolérance zéro, eh bien, la magistrature a été un peu plus sévère et maintenant, c'est la première année qu'il n'y a quasiment pas eu de capture d'ortolans et autres oiseaux pendant la période, c'est au mois de septembre. Par là.
Alors, on découvre aussi des scandales hein, de chez nos voisins, par exemple le scandale des lévriers espagnols. Dites-nous ce qui se passe.
Les galgos, c'est surréaliste. Alors, c'est aussi une histoire de chasse. On est dans le sud de l'Espagne. Il y a à peu près 150 chasseurs qui ont ces lévriers qui sont des Formule 1 hein, du monde animal et qui doivent attraper des lapins, etc. Or, il se trouve une chose incroyable, c'est que si le galgo, si l'évrier n'est pas efficient, efficace, eh bien, le chasseur considère qu'il est, il n'est pas de niveau et il est humilié. Et par conséquent, il va se venger publiquement contre le chien. Ça veut dire qu'on va pendre les animaux. Il y a même des techniques qui consistent à faire la pendaison du piano, c'est-à-dire qu'on laisse les pattes arrière qui piétinent encore pour que ça dure plus longtemps. On les jette dans des puits, on les tue à coups de fusil, on les traîne derrière des voitures. Mais il y a près de 50 000 chiens qui subissent ça chaque année. Dans quel monde on est ?
Mais du coup, comment est-ce que le gouvernement espagnol, les autorités espagnoles, tolèrent ça ?
Très étrange. C'est le pouvoir des lobbyings qui perdure en Espagne comme ailleurs, et ces lobbying font que il faut beaucoup de temps avant que l'évidence s'impose. Et puis un jour, il y aura un boycott du sud de l'Espagne, et puis on dira maintenant on arrête. Il y a plus d'intérêt à faire venir des touristes dans ce beau pays d'Espagne qu'à faire perdurer des pratiques aussi odieuses, quoi.
Alors, vous parlez de beaucoup de choses, hein. On parle aussi du peuple de la terre, hein, qui s'adresse aux aménageurs. Oui. Là, c'est un message, on sent bien aussi par rapport aux bétonneurs, parce que les
70 000 hectares par an.
Bétonnés.
D'artificialisation. Le béton et l'asphalte qui gagnent sur les terres naturelles et agricoles.
Et là, ça fait penser au triangle de Gonesse, hein, bien évidemment. Vous parlez des animaux aussi en captivité.
Les animaux sauvages dans les cirques. Oui. C'est pas acceptable. Vous savez, moi je connais un peu le monde circassien, il y a des gens très admirables du reste, et puis très gentiment ils me disent, mais Alain, attends, le tigre on l'a élevé au biberon dans la caravane. Moi je dis la chose suivante, un tigre il est peut-être de 10e génération élevé au biberon dans les caravanes, ça ne deviendra jamais un chat. Un tigre, il gardera ses besoins fondamentaux. Pour ça, du reste, qu'on le met en cage, parce que sinon, Et un tigre, ça a besoin d'au moins 50 km², même s'il a de l'alimentation, pour marquer son territoire, pour s'épanouir. Un tigre, ça vit seul. Or, dans ces voitures-cages de 7 m² de sûre, on les met en cohabitation avec des lions, avec d'autres tigres, etc. Tout ça est contre nature, c'est dépassé, c'est inacceptable. Il faut qu'on cesse avec les animaux sauvages dans les cirques.
Qu'est-ce que vous dites, c'est qu'aujourd'hui, on peut proposer bien sûr des cirques, mais avec d'autres activités, voilà. D'autres amusements, et que les animaux, s'ils sont sauvages, gardons-les dans des espaces dignes pour eux, et on peut aller les voir, bien évidemment.
Mais vous prenez des cirques cirques comme le cirque Plume, le cirque, enfin il y en a plein. C'est vraiment le cirque du 21e siècle, ça cartonne dans le monde entier. Les numéros sont rachetés ici et là, les chapiteaux sont pleins. C'est ça le cirque, c'est pas la triste ménagerie de ces animaux avec des comportements stéréotypés, usés derrière leurs barreaux, quoi. C'est pas acceptable.
Alors il n'y a pas que du négatif, parce que bien sûr, non. On sent, il y a des réglementations.
Non, parce que là, vous plombez l'ambiance.
Non, mais ça passe aussi par l'espoir et bien sûr faire ouais. sentir qu'il y a aussi certainement des combats qui ont ouais. été menés et qui ont réussi aujourd'hui. Parce que bon, on a compris, il y a des réglementations qui peuvent améliorer les conditions de vie. Encore faut-il les faire appliquer. Mais vous parlez par exemple des vautours, les vautours fauves qui ont été lâchés, hein, réintroduits en Aveyron. Et là, ça a été une belle réussite parce qu'il y avait l'acceptation des populations.
Oui, réintroduire une espèce, c'est avant tout imaginer que le biotope, le milieu naturel, est accueillant et favorable, et imaginer aussi, et peut-être surtout, que la population locale est accueillante et favorable. C'est ce qu'on a fait avec les lynx en leur temps, ça a globalement marché, même si c'est pas évident aujourd'hui. Et puis avec les vautours, le vautour qui a un parcours étonnant, parce que chez les Égyptiens, ben il incarnait la maternité. Ce sont des oiseaux qui conservent leurs petits le plus longtemps auprès d'eux. Et donc ça, ça plaisait bien aux Égyptiens qui l'ont déifié. Et puis malheureusement, ben, chez nous, il a été associé à la mort. Et puis on a voulu en faire des trophées. Ce sont des oiseaux prodigieusement beaux, grands, etc. Si bien que le vautour avait disparu du ciel Cévenol et que dans les années 70-80, notamment les frères Terrasse, le fonds d'intervention pour les rapaces, ils ont eu l'idée de réintroduire ces oiseaux qu'ils ont mis en cage, ce qu'on appelle au taquet, pendant un temps, afin qu'ils s'adaptent. Et puis un jour, on a ouvert la volière. Et voilà. Et aujourd'hui, vous avez plus de 2000 couples de vautours fauves en France. C'est devenu l'Aveyron, un lieu, l'Écosse, un lieu touristique remarquable. Ça participe du nettoyage de la nature parce que les charniers de brebis, etc., sont nettoyés par les vautours. Voilà, on retrouve une harmonie. Et moi, quand je vais dans ces coins-là, que je vois les vautours fauves, des gypaètes barbus, des percnoptères, tout, quel bonheur, quel bonheur. Alors, je sais, bon, je suis un peu... J'aime les animaux, bon, d'accord. Mais même celui qui ne les aime pas, quand il voit ce ciel habillé de vols fabuleux, je crois qu'on s'arrête, on lève le nez et puis on passe un bon moment.
Donc là encore, on comprend avec vous, avec votre livre Alain Bougrain-Dubourg, que ça passe par l'acceptation des populations, ça passe par la base dont on parlait dans la première partie d'émission, et que notamment ça bouge déjà par rapport aux poussins ou aux élevages de poules en batterie, et qu'il ne se passe pas, allez, peut-être un mois, suite aux actions de l'association comme L214, il ne se passe pas un mois sans qu'une enseigne annonce qu'elle ne commercialisera plus d'œufs de poules en batterie. Tout ça, c'est aussi ce pouvoir de cette population civile. La question finalement que vous posez dans votre livre, intitulé, je le rappelle, « L'être des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes » est paru aux éditions Les Échappées, c'est celle de savoir quand notre société humaine va décider de supprimer toute souffrance évitable faite à autrui.
Voilà, je crois que c'est vraiment la grande question, et je dirais que c'est une question qui nous questionne. J'ai eu le bonheur de pas mal connaître Marguerite Yourcenar, qui disait « Mais quand on regarde les actes de violence, bien souvent, l'homme violent à l'égard de l'homme s'est fait la main sur l'animal préalablement, et on le voit dans les affaires récentes, hein, où il est rappelé combien il y a eu des maltraitances. Moi-même, j'ai été chargé de mission au ministère de l'Agriculture pour la condition animale, et je me souviens que quand j'allais dans des fermes, des situations mais pathétiques, terribles, pour les bêtes bien sûr, mais également pour les éleveurs, j'ai sorti des enfants. Mais on était au 18e siècle, 19e siècle, qui était dans des conditions incroyables et que j'ai pu conduire à la DAS et qui méritait évidemment autant de secours que les animaux. On voit que tout ça participe de la même démarche. Et voilà. Bon.
Donc, considérons notre relation à l'animal, c'est votre message. Et je cite justement une des phrases que l'on trouve en conclusion de votre livre. « La planète deviendra trop petite si l'homme ne la partage pas éthiquement avec le reste du vivant. » Merci Alain Beaugrain-Dubourg d'être venu dans De cause à effet aujourd'hui. Le titre de votre livre « Lettres des animaux à ceux qui les prennent pour des bêtes ». Et je conseille aussi les annexes, très intéressantes. Voilà. Et bien sûr, toutes les informations, bibliographie, les liens, la revue de Web Environnement, les plus, les moins de la semaine, sont à retrouver comme d'habitude sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, sur le site aussi internet du journal Le Monde. Et vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur Facebook et découvrir bien sûr les vidéos de Paul Watson. Dimanche prochain, émission spéciale La Voix est libre avec Vandana Shiva pour parler de la crise écologique, des inégalités face à ce bouleversement et envisager le cercle vertueux pour en sortir. Et dans un instant, restez avec nous, bien sûr, c'est la suite de vos programmes sur France Culture avec les nuits concoctées par Philippe Garbi et son équipe.